Alors pour ce matin, on va se replonger encore une fois un peu dans le thème de Noël. Pierre, comme ça a été décidé vendredi, m'a dit tu peux faire ce que tu veux, soit tu peux continuer l'étude dans Zacharie. On est en ce moment en train de faire une étude suivie dans Zacharie et on est arrivé au dernier chapitre. Pierre avait déjà pas mal préparé, était chaud pour le faire, donc je lui ai dit qu'il pourrait le faire peut-être la semaine prochaine, quand les gens seront plus de retour, et pour que tout le monde puisse profiter de la fin de Zacharie ensemble. Et donc ce matin, je voulais me replonger encore une fois dans le thème de Noël, puisque c'est la semaine, même si le réveillon est passé, même si on l'a fêté la semaine dernière et en milieu de semaine, et je voulais me replonger un peu sur les passages que Pierre a mentionnés la semaine dernière, dont il a parlé dans Ésaïe, par rapport à la venue de Jésus. Et donc on peut lire, si vous voulez vous tourner dans Ésaïe, Ésaïe 7. Ce sont des passages connus, ce sont des passages qui ont inspiré certains des chants de Noël que nous chantons, que nous avons chantés même ce matin. Dans Ésaïe 7, au verset 14, il est dit « Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. » Et puis ensuite, dans Ésaïe 9, un petit peu plus loin, les versets 5 et 6, il est écrit « En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule, et l'on l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. » Alors Noël, de quoi s'agit-il? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose auquel nous devons prêter attention? Pierre en a parlé la semaine dernière et l'a fait en longueur. Et de nos jours, malheureusement, pour beaucoup de nos contemporains, il s'agit surtout d'une tradition, de quelque chose qu'on fait parce qu'on l'a fait avant et parce qu'on aime bien les souvenirs, on aime bien l'ambiance, on aime bien les cadeaux, En tant qu'être humain, on aime bien l'habitude, on aime bien les choses, les rythmes, on aime bien de se retrouver dans quelque chose. On le voit dans la psychologie, ils disent même que les chansons qu'on entend à la radio, ils disent si une chanson ressemble à une autre chanson qu'on connaît déjà, on va avoir tendance à l'apprécier plus rapidement. Donc ils composent des chants qui finissent un peu tous par se ressembler parce qu'on aime bien, on a cette habitude, cette familiarité qui nous est agréable. Et donc malheureusement, Noël tombe un petit peu dans cette idée de tradition. Mais pour nous, en tant que chrétiens, ici ce matin, ça devrait être quelque chose de différent. Ça devrait nous parler différemment. Nous fêtons la venue de Jésus sur la terre. C'est ça que nous fêtons à Noël. Et dans ce passage qu'on a lu dans Ésaïe 7, il est dit que la Vierge sera enceinte et qu'elle mettra au monde un fils, Emmanuel. Et Emmanuel, ça veut dire littéralement « avec nous et Dieu ». Et c'est quelque chose de significatif pour la Bible, pour les chrétiens, pour plusieurs raisons. Et peut-être pour faciliter un petit peu, on pourrait dire en trois points, ça nous aide avec le passé, avec le présent et avec le futur. Quand on regarde la Bible, quand on voit Jésus, quand on voit sa vie, la venue de Jésus que nous fêtons à Noël, elle confirme ce que la Bible nous présente concernant notre monde. Les prophéties que nous voyons dans tout l'Ancien Testament comme un fil rouge et dont Pierre a parlé beaucoup la semaine dernière, nous donne un signe qui valide le message de la Bible. Et donc ça valide tout ce passé, tout ce que la Bible nous présente sur le monde, sur qui nous sommes, sur d'où nous venons, sur tout le passé, sur l'Ancien Testament. Et puis ensuite, sur le présent, la venue de Jésus, et puis sa mort et sa résurrection, nous annonce une solution pour notre problème du péché. C'est la venue de Jésus est l'apogée et le point final et le point d'orgue du plan de Dieu pour l'histoire de l'humanité. C'est l'apogée du récit biblique et de l'histoire de l'homme. Et sa venue nous permet, dans le présent, d'être réconciliés avec Dieu, d'avoir une relation avec Dieu, de régler notre problème, le problème que nous avons ici et maintenant dans nos vies, le problème du péché. Et ensuite, la venue de Jésus, parce qu'elle valide ces choses dans le passé, parce qu'elle valide le problème et elle apporte une solution au problème, et parce que nous voyons qui est Jésus, nous voyons sa vie et nous voyons le fait qu'il répond à tout ce qui était dans le passé, dans tout ce qu'il y avait dans la Bible, qu'il se montre de manière incroyable comme étant Dieu, il valide les annonces que la Bible fait pour le futur et concernant la fin du monde. Et donc cette venue de Jésus, elle est lourde de sens à tellement de raisons. Paul disait, si Jésus n'est pas celui qui dit être, s'il n'est pas mort et ressuscité, alors nous sommes les plus malheureux des hommes. Si ce ne sont que des fables, alors tout perd son sens. Si Jésus n'est pas venu comme c'est marqué dans l'Ancien Testament, en accord avec ses prophéties, alors tout perd de son sens, tout perd de son utilité, de son importance. Et donc Ésaïe ici, et c'est incroyable, c'est une des prophéties qui est incroyable, dont Pierre a parlé, nous annonce cette venue des centaines d'années avant qu'il vienne. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, avec nous et Dieu. Ce verset est repris dans le début de Matthieu. Les apôtres et ceux qui ont rédigé les livres du Nouveau Testament, ils étaient très familiers avec l'Ancien Testament, ils ont passé beaucoup de temps à relire la parole de l'Ancien Testament et à se rendre compte qu'il y avait Jésus de partout dans l'Ancien Testament et de se rendre compte que Jésus répondait à tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Et donc dans Matthieu, il reprend ces choses. Il dit, oui, on voit dans Ésaïe, dans ce qu'il y avait longtemps avant, et Jésus correspond exactement à ça. Et ce qu'il y a plus loin, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, la souveraineté reposera sur son épaule et on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Jésus, l'Éternel est notre Sauveur. Ce passage dans Ésaïe est aussi cité dans Matthieu, dans le début de Matthieu. Et encore une fois, c'est ces apôtres qui, ayant connu Jésus, et puis en lisant l'Ancien Testament, se disaient, mais oui, ça parlait là, c'est clair, c'était là, c'était là, c'était là, c'était là. Alors, on a parlé pas mal et je ne veux pas retomber dans les choses que nous avons regardées la semaine dernière par rapport aux prophéties. Mais aujourd'hui, je voulais surtout réfléchir sur l'idée de cette parole Emmanuel, avec nous et Dieu. Je voulais regarder quelques points par rapport à ça. Tout d'abord, je voulais réfléchir au fait que c'est un miracle qui a beaucoup coûté à Jésus. On peut se tourner, il y a quelques versets qui nous l'expliquent dans 2 Corinthiens 8, 9. Paul dit « En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Et dans Philippiens 2, les versets 5 à 8, si vous voulez vous y tourner avec moi, il dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et donc Paul nous explique que c'était quelque chose qui a coûté. il a dû se dépouiller d'une partie de sa liberté, de quelque chose de son caractère. On ne comprend pas vraiment, mais il a dû se limiter pendant un temps, se faire homme pour nous. Et on peut réfléchir quelques instants là-dessus pour essayer de saisir un petit peu, mais j'ai essayé de trouver une illustration pour nous donner un petit peu d'aide visuelle ou quelque chose à laquelle on puisse se raccrocher. Imaginons que vous dessinez sur une feuille un petit bonhomme. Moi, je suis bon dessinateur, donc je sais faire le bras, les pieds, etc. Une tête avec un petit smiley. Imaginez qu'on me dise, Tonio, tu vas... Il y a des gens sur cette feuille qui ont des problèmes. Tu vas aller te mettre sur la feuille en tant que petit bonhomme 2D. Tu vas être limité à la petite feuille A4, tu ne vas pas pouvoir bouger, tu vas être restreint, tu n'auras pas de nourriture, tu pourras faire rien que sourire, toute ta liberté de ce que nous connaissons en tant que vie va être restreinte à ce truc en 2D, en trois couleurs, parce que j'ai un bic trois couleurs juste, et tu vas être obligé d'aller là et rester là. Et en plus, les petits bonhommes là qui ont des soucis, ils vont venir te faire extrêmement mal. Est-ce que ça vous semble être un bon deal, un bon truc auquel vous auriez envie de vous lancer? Ça nous permet un petit peu de visualiser. J'aurais pu faire un petit dessin. Celui-là, j'aurais pu le faire pour qu'on l'ait en tête. Mais le petit bonhomme 2D qui se balade sur la petite feuille A4, qui sur les bords de la feuille A4, qui n'arrive plus à bouger. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous par amour. Il est venu. Et c'est même intéressant de se poser la question. Il a vraiment embrassé dans la condition humaine, dans sa toute plénitude, si on peut dire. Il s'est même fait bébé. Est-ce que Dieu aurait pu l'envoyer? Est-ce que Dieu a déjà créé des hommes qui étaient déjà faits? Adam et Ève, Dieu aurait pu l'envoyer différemment. Dieu aurait pu lui dire, voilà, tu descends, tu vas arriver sur une nuée en tant qu'homme déjà adulte. Mais cette humilité par amour, pour vraiment comprendre toute notre condition, toute notre vie, pour pouvoir avoir cette relation avec nous, pour pouvoir être ce comme Hébreu nous le dit, ce souverain sacrificateur qui a tout vécu comme nous et qui peut compatir avec nous, qui comprend tout ce que dont nous passons dans la vie. C'est incroyable. C'est incroyable ce miracle, que Dieu vienne sur la terre en tant qu'être humain. Alors dans Ésaïe, si on regarde, il est question de la souveraineté sur son épaule. On va regarder quelques-uns de ces attributs dans Ésaïe 9, 5 et 6. Jésus va être celui qui a l'autorité, il est dit. Et nous ne voyons pas l'accomplissement final encore, mais la Bible nous explique que Jésus, c'est le roi. C'est le roi des rois, c'est le seigneur des seigneurs. C'est l'autorité suprême. Tout ce que l'homme peut faire, tout ce que même Satan peut essayer de faire contre lui, ça n'en devient que plus ridicule. J'aime bien avec ma fille qui a 3 ans et demi, quand elle essaie d'imposer son autorité sur ma femme et moi, quand elle veut imposer son agenda, suivant ce que ça soit, j'aime bien lui rappeler, je lui dis qui c'est le boss. Et elle sait qu'il n'y a qu'une réponse pour ça actuellement, en tout cas dans la famille. Elle a même commencé à le dire à ma femme, alors il faut que je fasse attention, mais que papa c'est le boss. Jésus est le roi, l'autorité est sur lui. C'est, cet enfant qui est né, ce fils qui nous est donné pendant la période de Noël, on peut tomber dans cette tendance à le minimiser, à dire c'est le petit Jésus, c'est un petit bébé. Moi, en tout cas, j'ai le sentiment que ça peut m'arriver. Je ne sais pas vous, mais je crois que c'est bon de se rappeler. Et notamment, on peut regarder dans Apocalypse, le premier chapitre de l'Apocalypse, au verset 12. Jean a une vision et il entend une voix et il dit : « Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. » Et Jean, il dit, « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. » Ça, c'est Jésus dans son autorité, dans sa majesté, dans la réalité de qui il est. Il a décidé pendant sa venue à Noël de dire, je vais cacher cet aspect-là pour pouvoir venir aimer les hommes. Je vais cacher cette réalité de qui je suis, cette puissance incroyable, on n'a même pas d'adjectif, cette énergie, ce quelque chose d'incroyable, je vais comme le voiler pour pouvoir venir sur la terre pour aimer l'homme. Et donc il est le roi. Et quand il était sur terre, il parlait de son royaume, il disait que son royaume était là. Et là aussi, nous ne voyons pas l'accomplissement complet, et c'est d'ailleurs une bonne parenthèse, mais Zacharie 14 nous parlera du retour de Jésus pour vraiment établir son royaume. Mais son royaume est présent dans nos vies, spirituellement. Son royaume est présent. L'autorité, la souveraineté repose sur son épaule. Et on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Je veux passer quelques minutes alors pour la fin de regarder ces choses, de regarder Dieu avec nous. Cet enfant, la parole de Dieu nous dit, va avoir ses caractéristiques. Quand la Bible nous dit son nom sera ou on l'appellera, Dans le texte et dans le contexte de là où ça a été écrit, c'est l'idée que ces noms qu'on donne, elles sont là parce que le caractère qui correspond est présent dans la vie de la personne. Et pour nous, pendant cette fête de Noël, de réfléchir à Dieu avec nous, je ne sais pas vous, mais la vie peut être difficile, le monde est difficile quand nous regardons les nouvelles, quand nous regardons les choses qui se passent autour de nous, quand nous regardons le monde tel qu'il est autour de nous, quand nous réfléchissons au futur, nous pouvons parfois manquer de joie ou de paix ou de nous dire mais où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire. Et la parole de Dieu nous dit mais Dieu est avec vous, Dieu est avec nous. Et regardons ces caractéristiques, ça devrait nous faire nous réjouir. C'est un merveilleux conseiller. Est-ce que vous avez besoin de conseils parfois dans vos vies? Est-ce que vous êtes dans toutes les situations, vous savez ce qu'il faut faire? Est-ce que si je vous donnais, j'en sais rien, là aussi pour avoir un exemple en tête, si je vous donne 50 000 euros, vous savez quoi en faire tout de suite là ce matin, ou est-ce que vous avez besoin, vous allez essayer d'aller chercher un conseiller pour vous dire tiens, investis-le là ou pas là, ou on a tellement de choses dans la vie où on ne sait pas quoi faire, tellement de situations où on n'a aucune idée de comment on doit se comporter, tellement de moments dans nos vies où on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi les choses nous arrivent, on ne sait pas. Et, et,
et Jésus est un merveilleux conseiller. Et il y a tellement de mauvais conseils, il y a tellement de gens dans le monde qui ont de mauvaises motivations, qui ont des intérêts personnels, qui veulent nous exploiter, qui veulent abuser de nous, qui veulent profiter de nous, qui veulent nous utiliser, même pour beaucoup dans la famille, parmi les amis, parmi même les gens qu'on pourrait penser auraient notre intérêt en vue, pour beaucoup, même parfois qui ont vraiment à cœur de nous aider, mais qui en fait ne savent pas non plus de quoi ils parlent, mais qui vont nous donner des conseils mauvais. Et c'est tellement difficile, et ça peut être décourageant, ça peut être un souci, mais la Bible nous encourage, nous exhorte, nous dit, vous avez un bon conseiller, vous avez un merveilleux conseiller, un conseiller devant lequel vous devez vous émerveiller, vous dire, waouh, il m'a donné ce conseil, waouh, c'était un bon conseil. Si on se dit, ça me fait penser, c'est un peu marrant, mais cette idée d'investir et de savoir quoi faire de son argent, il y a des vieux films, la série Le Retour vers le futur, où il y a le personnage qui va dans le futur et qui récupère un livret avec tous les résultats sportifs du passé, et puis il retourne dans le passé et puis il peut parier parfaitement sur tous les résultats sportifs et se faire une fortune. Et nous, on a un petit peu ça. On a Jésus, il connaît le passé, le présent et le futur, il sait ce qui est le meilleur pour nous. On peut lui demander conseil, on peut chercher sa volonté et savoir que ce que nous cherchons à faire en réponse à ce qu'il nous dit, c'est comme si quelqu'un venait du futur et nous disait « voilà les chiffres à parier pour gagner au loto ». C'est formidable, Jésus veut nous faire gagner au loto de la vie. Il a les réponses dont nous avons besoin pour savoir où aller. Et ça devrait nous encourager, nous donner de la joie et aussi nous encourager, nous exhorter et nous donner l'envie aussi de le partager aux autres pour qu'eux aussi, ils aient la solution, eux aussi, ils aient le bon conseiller, le merveilleux conseiller. Il dit ensuite, Dieu puissant, Jésus est Dieu puissant. Si on se tourne dans Colossiens 1, on peut lire les versets 15 à 17. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Jésus, ce petit bébé que nous célébrons à Noël, est Dieu puissant. Dans Hébreux, au chapitre 1, à partir du verset 1, on peut lire « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. » Et si on se tourne dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, on voit au verset 1 qu'il est écrit « Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Et on saute ensuite au verset 14, « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Est-ce qu'il y a des choses qui vous émerveillent? Qu'est-ce qui vous émerveille dans le monde? Est-ce que vous êtes émerveillé par l'étendue de l'univers? Est-ce que vous êtes émerveillé par la création devant, j'en sais rien, la mer, les montagnes, les créatures qui peuvent exister dans notre monde? C'est tellement incroyable de réfléchir à l'univers. Les dimensions sont tellement grandes, sont tellement incroyables qu'on n'arrive même pas à les effleurer avec nos pensées. On n'arrive pas à comprendre et les choses minuscules qui composent notre monde, qui nous composent, on a du mal aussi à les comprendre. On les effleure, on essaie de faire des modèles pour saisir la réalité physique, mais on n'y arrive pas. Et dans le psaume 104, au verset 1, il est dit « Bénis l'Éternel, mon âme, Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu de splendeur et de magnificence. L'Éternel s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il étend le ciel comme une tente. Il construit sa demeure au-dessus de l'eau, il fait des nuages, son char, il s'avance sur les ailes du vent. » Ce sont des choses imagées, mais cette idée qu'il tend l'étendue céleste comme on tend une tente, c'est Dieu est puissant, il est incroyablement grand. Et la Bible nous présente Jésus comme étant Dieu, comme faisant partie de la Trinité. Ici, nous en avons encore un exemple, nous en avons parlé dans Zacharie, nous en parlons dans différents passages dans la Bible, mais la Bible nous présente Jésus comme étant Dieu à part entière. Et ce bébé que nous célébrons à Noël a une puissance que nous n'arrivons pas à saisir. Ensuite, dans Ésaïe, il est dit « Père éternel ». Alors ici, il ne s'agit pas de dire que c'est le Père et qu'on confonde les deux. La Bible nous le présente comme Dieu, la Trinité, avec un Père, un Fils et un Saint-Esprit qui sont distincts, mais qui sont unis. Ici, dans le texte, il y a l'idée que c'est lui qui est l'auteur, qui est le père du temps, qui est le père de l'éternité. Que le temps, c'est quelque chose que lui contrôle, qu'il est au-dessus, en dehors du temps. Cette idée de père, on peut y réfléchir, cette idée de bon papa, de quelqu'un qui est le père, qui est l'exemple, le bon exemple d'un père qui nous aime. Et quand on associe ces choses, ça doit être quelque chose qui nous donne une joie incroyable de nous dire « Mais c'est un conseiller merveilleux qui est Dieu puissant, qui a créé l'univers, qui a une puissance incroyable, qui est en dehors du temps, qui a une vision des choses, qui voit tout, qui est au courant de tout, qui sait tout. » Et si on se essaie de réfléchir à ce fait d'avoir peut-être quelqu'un qui a la maîtrise du temps ou une certaine peut-être on pourrait parler d'expérience. Simplement, moi j'ai trouvé cette idée qui m'a aidé un petit peu, mais c'est est-ce que parfois quand nous sommes jeunes, peut-être plus jeunes comme David par exemple, l'expérience de nos aînés, c'est pas quelque chose qu'on apprécie peut-être à sa juste valeur toujours, mais quand on devient un peu plus grand, quand on a comme moi des petits-enfants, on se rend compte qu'on a beaucoup à apprendre de nos aînés. Et l'expérience que le temps peut nous donner, l'expérience que le temps, que dans nos vies simplement, ça nous donne quelque chose de bon et d'appréciable. Quand quelqu'un qui a une longue expérience dans un domaine vient et vous aide, vous donne un conseil, quelqu'un par exemple qui peut former quelqu'un à un emploi, à un travail, à un métier manuel, on apprécie énormément. Je sais qu'il y a des domaines peut-être très manuels où quand vous travaillez avec quelqu'un qui a une longue expérience, si vous prenez du temps pour regarder ce qu'il fait, pourquoi il le fait, et qu'il prend 5 minutes pour vous expliquer, vous en apprenez plus qu'en passant des années dessus vous-même. Je sais, pour avoir fait des travaux, par exemple avec Louis, pour faire de l'enduit ou de la peinture, ben moi, je peux passer des heures
et le mur, il sera toujours pas plat. Et puis deux, quelqu'un d'autre, ou etc., etc. Mais nous avons, dans ce merveilleux conseiller, ce Dieu puissant, ce Dieu qui est avec nous, quelqu'un qui est l'auteur même du temps, qui est au-delà, qui a une expérience au-delà de tout ce que nous pouvons acquérir pendant nos vies, de tout ce que nous, en tant qu'humanité, nous pourrions acquérir comme connaissance, comme savoir dans le monde. Parfois, on s'émerveille devant la quantité d'informations qui se trouvent sur Internet. Dieu, c'est même pas à prendre en considération. C'est même pas une goutte d'eau. C'est l'auteur de l'éternité. Il a le temps entre ses mains. C'est incroyable. Parce qu'il est avec nous. Ce Dieu incroyable. Et puis, on voit le prince de la paix. Jésus vient et il apporte la paix. Il veut apporter la paix dans nos cœurs. Il veut apporter la paix entre nous et Dieu. La Bible nous dit que nous avons un problème en tant qu'être humain entre nous et Dieu. Nous sommes en situation de conflit avec Dieu. Nous avons quelque chose qui ne va pas entre nous et Dieu. Et Jésus veut venir amener la paix entre nous et Dieu. Et il veut nous amener une paix qui dépasse l'entendement, qui vienne dans nos cœurs et qui nous surprenne, qui nous remplisse pendant notre vie, pendant tous les instants de notre vie. Il veut que nous ayons la paix. Est-ce que vous voulez avoir la paix? Est-ce que vous êtes toujours en paix? Ou est-ce qu'il y a des moments où vous êtes frustré? Ça va bien avec l'idée du merveilleux conseiller. Toutes ces situations où vous dites je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller, je ne sais pas, j'ai des décisions à prendre, j'ai des choses à faire, qu'est-ce que je fais? Et Jésus veut nous donner la paix, veut nous rendre tranquille par sa présence. Il veut nous dire je suis avec vous, je veux vous conseiller, vous aider, mais même si je ne vous conseille pas, si je garde ma parole, il veut nous donner une paix qui nous quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui se passe dans nos vies, soit présent dans nos cœurs. Et on verra peut-être dans Zacharie que Jésus veut amener une paix finale dans l'univers. Nous n'y sommes pas encore, mais il veut amener une résolution à la situation de l'homme, de Satan, de la rébellion contre Dieu, de toute l'instabilité que nous voyons dans le monde. Et ça aussi, c'est quelque chose de merveilleux. On a vu dans Colossiens ce que je vous lisais au verset 20, il dit qu'il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, parlant de Dieu le Père, et aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Dans Jean 14, 27, il est dit, alors je vais m'y tourner. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Est-ce que votre cœur se trouble parfois? Est-ce que vous êtes effrayé? Dieu nous dit, je vous donne par Jésus ma paix et je veux que vous n'ayez pas à vous troubler, à vous effrayer. Dans Éphésiens encore, on peut lire aussi, Éphésiens 2, les versets 14 à 18, parlant de Jésus, « En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. » Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Et peut-être aussi pour regarder dans Matthieu,
chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Dieu a envoyé Jésus sur la terre pour nous donner la paix, pour nous donner le prince de la paix, pour que nous ayons cette paix, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Ce Dieu est avec nous et la Bible nous dit même que ce Dieu, quand nous venons à lui, quand nous acceptons Jésus par la foi, que ce Dieu vient en nous, par son Saint-Esprit. Jésus en parle dans Apocalypse 3. « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Par son Saint-Esprit, nous avons ce même Dieu qui est en nous. Et ça devrait nous donner une joie, une paix, une assurance incroyable. Ce temps de Noël devrait être un moment où nous prenons le temps de réfléchir à cette réalité, nous prenons le temps de nous dire « Ce Dieu-là, ces caractéristiques, ces choses que nous voyons là, et ce ne sont que quelques éléments du caractère de Dieu, du caractère de Jésus. Ce Dieu-là est avec moi. Il est avec nous. Quand vous vous promenez la journée, quand vous êtes dans la difficulté, quand vous êtes dans la joie, quand vous êtes dans le deuil, quand vous êtes dans les petits moments insignifiants de votre vie, ce Dieu-là est avec vous. Ce Dieu-là nous aime. » Et on peut regarder dans Luc, cette venue de Jésus, au verset 10, chapitre 2, pardon, verset 10. « Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. » Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Cette venue de Jésus à Noël était tellement incroyable, était tellement miraculeuse que même le ciel, les anges, se sont exclamés, se sont mis à chanter. Paul, dans un autre passage, nous dit que dans Colossiens, nous dit que c'est tellement incroyable que même les anges veulent regarder et cherchent à comprendre ce miracle, ce mystère de la venue de Jésus, de sa mort et de sa résurrection, de cette incarnation. Emmanuel avec nous est Dieu. Ça doit nous changer. Dieu est avec nous. C'est formidable. Ça doit nous remplir d'une joie incroyable. Et s'il y en a qui n'ont pas encore reçu Jésus, priez-le, parlez-lui, demandez-lui, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es vraiment la vie de Jésus, sa venue sur terre? Comme je disais en introduction, la réalité du fait qu'il était présent sur terre comme ici dans ces textes valide toutes ces choses. Réjouissons-nous en cette période de Noël. Soyons dans la joie parce que Dieu est avec nous. Parce que quand nous voyons le monde, quand nous voyons les troubles, quand nous voyons les difficultés, quand nous voyons tous les soucis que nous pouvons avoir, Dieu est avec nous. Quelle joie ! Prions. Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Merci de ce que tu es venu, Jésus. Merci pour ce que ça t'a coûté, parce que tu as obéi au Père, parce que tu as, par amour pour nous, voulu venir. Et Père, nous voulons te remercier pour ce plan, nous voulons te rendre gloire parce que c'est un plan incroyable, parce que c'est un plan merveilleux, parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. Et nous voulons que tu sois dans nos vies un merveilleux conseiller, un Dieu puissant, un Père éternel, un Prince de la paix dans nos vies. Sois toutes ces choses dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Et nous voulons que cette période de Noël soit aussi un temps où nos cœurs éclatent comme les anges de louange, Seigneur, à cette venue, à ce miracle, à cette glorieuse chose que tu as faite, Seigneur, pour notre salut, pour le salut de l'homme, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Dieu. Tu es tellement bon, tu es tellement grand. Entendons-nous prions ces choses. Amen.